Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Double Slash. Bonjour les devs. Alors, Double Slash, le podcast indépendant qui parle de développement web et d'IA, évidemment, pour ceux qui ne connaissent pas, voilà. Et bah, comme d'habitude, nous sommes avec Alex. Salut Alex.
Salut Patrick, salut tout le monde.
Donc, on est en mai 2025. On va remercier, comme d'habitude, bah, les sponsors de l'épisode, ceux qui nous soutiennent sur GitHub. Voilà. Merci à eux.
Et vous pouvez le faire aussi via une participation, un petit like, un petit pouce, un petit que vous soyez sur YouTube ou sur les plateformes de podcast, vous pouvez noter le podcast, ça nous aide à remonter. Vous connaissez la musique de toute façon. Aujourd'hui,
Oui.
épisode news, on va parler de GSAP, la librairie d'animation. On va parler du drame de Redis avec un rebondissement sur l'open source. On va parler de Bootstrap, on va parler de Directus, de Figma et de plein d'autres solutions qui vont nous faciliter la vie en tant que nous, dev. On attaque tout de suite, on rentre dans le
Oui.
cœur du sujet. Une librairie qu'on connaît tous parce que c'est un acteur historique de l'animation, c'est GSAP. Pendant
Yes.
très très longtemps, on avait beaucoup de fonctionnalités qui étaient derrière une sorte de communauté ou de paywall. Et là maintenant, en fait, ça passe totalement gratuit.
Oui, c'est ça, ouais. En fait, Webflow avait racheté GZAP. Alors après, exactement, parce que GZAP, je sais pas si c'est licence open source ou pas. Mais en tout cas, en 2024, Webflow avait racheté GZAP. Et bah, cette année-là, enfin là, voilà, dernièrement, il y a je sais pas quand, c'était en avril, ils ont rendu disponible gratuitement toutes les fonctionnalités en fait de GSAP, notamment Speed Text, Morph SVG, tout ça, c'était des fonctionnalités qui étaient disponibles uniquement si tu étais membre GSAP, donc il fallait payer à l'année. Ouais, c'est pas une fortune, hein, mais je sais plus combien c'était exactement. Mais du coup, maintenant, tout est dispo gratuitement, voilà, c'est free. C'est cool.
Ben ouais, je pense que c'est cool. Après, c'est aussi, je pense, une réponse à toutes les librairies en fait d'animation qui ont fleuri ces dernières années. Eux, ils ont quand même beaucoup, beaucoup réécrit de choses. Ils ont fait un gros travail sur la performance. C'est ce qui leur avait été annoncé. En tout cas, c'était le point faible de GSAP, c'était ça. Ils ont tout réécrit et je pense qu'ils doivent voir aussi beaucoup de gens qui sortent de GSAP. Et donc le fait de mettre quelque chose de gratuit, ça vient sans doute apporter un petit peu plus
Ouais.
de légitimité à leur bah,
Ouais, bah, de toute façon, après,
à ce choix, quoi.
comme on a déjà dit dans le dernier épisode, GSAP s'est beaucoup amélioré au niveau performance. D'ailleurs, là, dans l'article où tu es, il parle de split text qui a été réécrit, qui est 50 fois plus léger. Donc voilà, c'est un système qui permet de splitter le texte et de faire une animation au niveau de chaque lettre, etc. Tu fais des transitions assez sympas. Donc voilà, de toute façon, GSAP s'est super amélioré. Après, Motion, la librairie d'animation aussi, c'est pareil, en fait, il y a une partie qui est payante. Je l'ai utilisé dernièrement et tu as des animations sur le texte, tout ça, qui sont devenues payantes. Tu dois
Motion
avoir une
Plus, ouais,
licence.
un truc comme ça.
Ouais,
Ouais.
donc du coup, bah là, c'est free. Merci Webflow pour cette
Excellent.
générosité. Ouais.
Excellent. Allez, sur le côté payant, open source, mais pas que, pas tant que ça, tout le drama Redis. On se rappelle qu'il y a quelques années maintenant, ou moi, je sais plus
Ouais, je
exactement,
crois.
il y a eu un drame avec Redis où, en fait, la société Redis Corporate, en fait, qui était quasiment l'acteur le principal, et c'est lui qui contribuait, en tout cas, le plus à l'évolution, a mis un holà en fait sur l'utilisation et est venu en fait changer quelque peu les règles de l'open source, ce qui a valu en fait l'explosion des projets alternatifs. On pense à Valky qui est Key Value qui est venu exploser à ce moment-là. Et là, on dirait que Redis fait un peu machine arrière.
Ouais, c'est ça, ouais. Donc, ils reviennent sur une licence open source à partir de Redis 8. Bah, ça sera officiellement revenu sur une licence open source AGPL. Donc, voilà. C'est finalement, Bah en fait, tout le monde s'est mis à faire des alternatives. Ils se sont rendu compte qu'en fait, bah, c'était pas une bonne idée parce que finalement, bah, les alternatives étaient aussi efficaces, etc., fonctionnaient bien. Et puis en plus, tous des gros acteurs avaient investi dessus. Ils se sont dit, oula, on va peut-être finalement sauter au bout d'un moment parce que bah, finalement, si t'arrives à changer facilement de Redis à Valkyrie, pourquoi pas changer? Et puis,
Ouais,
donc ils étaient plutôt perdants dans l'histoire. Et...
je pense, et puis même au-delà de l'aspect performance, je pense aussi qu'il y avait juste une image de marque qui n'était pas bonne en fait. Et je
Ouais.
pense qu'ils ont plus perdu en termes de réputation et de notoriété d'image que de. Et ça, c'est pas bon. Donc je pense qu'ils essayent de redorer un peu le blason. Est-ce que c'est trop tard? Je sais pas.
Non, je pense pas parce que y a beaucoup de gens qui n'ont même pas entendu. Enfin, il y a des gens qui utilisent Redis qui n'ont pas vu que ça avait changé de licence.
Ouais, pas faux, ouais. Pas faux.
Donc, je sais pas.
Allez, Storybook qui passe en version 9. On se rappelle de Storybook qui, en fait, est un utilitaire qui va nous permettre de créer des composants, c'est ça?
Yes, alors c'est un outil que moi j'utilise beaucoup. Ça te permet de créer des librairies de components dans ton projet quand tu as des components Vue, React, n'importe, ou même JS, HTML, si tu peux le faire aussi. Ça te permet de faire une librairie de components. Donc il y a beaucoup de gros projets qui utilisent ça. Et après, donc, tu as une interface où tu as tous tes composants disponibles, et tu peux jouer avec, les afficher, etc. Donc c'est hyper pratique. Si vous n'avez jamais essayé, franchement, je vous conseille vraiment d'essayer parce que ça te permet de développer directement dans Storybook tes components. Par exemple, des boutons, tout ça, tu les fais directement dedans. Ils sont indépendants et après, tu les intègres dans ton projet, dans ton app, etc. Donc, c'est vraiment pratique. C'est aussi pratique quand tu bosses avec t'as des chefs de projet, tout ça, qui doivent valider, en fait, bah, tes components, tout ça. Eux, ça leur permet, en fait, d'aller sur Storybook et de regarder les components et de valider, bah, OK, le component, il fonctionne comme on voulait, tout ça, les couleurs, tout est bon, OK, je valide, et puis voilà. Donc, c'est vraiment très pratique pour développer. Et donc, au fil des années, au fil des versions, il s'est beaucoup simplifié, allégé, voilà, il est devenu de plus en plus performant, etc. Et donc là, la version 9 qui arrive, qui est toujours en bêta, mais qui arrive, voilà, de nouvelles améliorations encore, et surtout encore plus sur... maintenant, tu as carrément des trucs de test intégrés, en fait, dans Storybook.
Pour
C'est-à-dire que tu
tester
peux
tes
faire une
propres
batterie de test.
composants. Ok.
Ouais, tu peux tester tes components, tu peux les tester visuellement, donc voir s'il y a des différences entre celui d'avant et celui d'après. Tu as du test coverage, enfin voilà, tu as voilà, plein de systèmes qui étaient déjà un petit peu existants, des trucs de test, mais là, maintenant, c'est encore mieux intégré, etc. Donc,
Ok.
franchement, c'est un super, super outil. Franchement, si vous ne l'avez jamais utilisé, je vous conseille d'essayer un petit peu, parce que, en plus, c'est hyper simple maintenant à
Alors
intégrer dans un projet.
moi je te cache pas que j'avais testé, j'avais trouvé ça monstre compliqué à configurer
À
et j'étais
l'époque,
en
peut-être,
mode waouh.
ouais.
Et en fait, alors peut-être déjà je devrais réutiliser pour tester, mais je suis toujours un peu sceptique quant à l'intégration finale en fait dans le contexte avec les données métiers de mon application. Est-ce que c'est pas plutôt pour faire des applis, des batteries de composants, on va dire un peu génériques, tu vois les boutons, les headers, les choses comme ça. Mais dès que tu arrives sur des composants métiers, est-ce que t'es pas là obligé d'aller récupérer de la donnée spécifique? Et donc, est-ce que tu touches à ta limite avec Storybook ou au final, tu peux faire des composants métiers ou c'est plutôt pour des composants dits génériques?
Non, ça fait tout. Après, quand j'ai des composants qui ont besoin de data spécifiques pour s'afficher, en fait, je vais récupérer des data et je les mets dans un fichier JSON et voilà,
Ok.
j'utilise ces data directement, des
Ok.
fake data, en gros, enfin, presque vrai, quoi, et après, ton composant, ça s'affiche. Non, vraiment, moi, j'adore cet outil, j'intègre dès que je peux et généralement, franchement, sur des gros projets, même les chefs de projet, tout ça, sont super, ils apprécient vraiment l'outil. Parce
Ok.
qu'après, quand on déploie, on a la branche de l'application et après un déploiement pour le storybook. Donc, tu as vraiment deux URL différentes. Ils vont sur le storybook et ils regardent ce qu'il y a à faire. Et voilà, s'il y a des changements, on les fait. Dans storybook, c'est validé. Alors après, tu as toujours des fois des différences entre le storybook et l'intégration dans la page, des petites retouches à faire, mais dans l'ensemble, franchement, tu gagnes un temps pour développer les components et tout.
Ok.
Non, c'est vraiment. Moi, franchement, je suis fan depuis le début. Alors, c'est vrai qu'au début, c'était très compliqué, Storyboard.
Ah ouais, ah
Il y a
ouais, ah
beaucoup de
ouais.
configs, beaucoup de fichiers, etc. Aujourd'hui, tu n'as quasiment pas de config parce qu'il arrive à détecter ton projet, donc il se configure tout seul. Et les stories, tu peux les mettre où tu veux dans le projet, il les retrouve toujours. C'est un peu comme les tests, tu sais. Donc, franchement, aujourd'hui, c'est hyper simple. Hyper simple. Voilà.
Donc il nous faut le tester quoi, si vous voulez
Ouais, testez-le,
vraiment.
franchement, parce que l'essayer, c'est l'adopter souvent, ouais, dans un
Ok.
projet.
Allez, un truc qui a été adopté depuis très 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 longtemps. On ne va pas relancer le débat si Bootstrap c'est bien ou pas, et s'il faut passer sur Tailwind ou pas. Toujours est-il que 5.3.6, c'est la dernière version en fait de Bootstrap. Elle vient avec des nouveaux
Non, il n'y a pas grand-chose.
composants. Qu'est-ce que ça change
Non, il
clairement
n'y a pas
avec.
grand-chose, mais je l'ai mis en fait. En fait, je vais te dire pourquoi je l'ai mis. Regarde le premier truc, le premier truc de la liste, en fait. Ils ont porté la doc juste après. Non, ouais. Ils ont porté la doc de Hugo à Astro. Et ce qui me fait rire, en fait, c'est la première ligne juste en dessous de la liste, là. Porter la doc from Hugo to Astro pour leur propre santé mentale, en fait. Ça m'a fait marrer. Voilà.
Et donc, ce qui veut dire que, au final, Astro a gagné son pari en fait de devenir peut-être le site de génération de sites statiques de référence, peut-être.
Bah là, ouais, on voit que ouais, quand tu portes des docs sur Astro, pourtant il y a des trucs de docs qui sont vachement bien faits, hein, Docusaurus, tout ça. Bon, là, pourtant Hugo, tu vois, c'était assez réputé, mais on voit que petit à petit, les gens préfèrent en sortir. Enfin, c'est pas le premier que je vois en sortir, parce que Hugo, bah ouais, c'est sympa, mais le markup, tout ça est tellement spécifique à Hugo que les gens, des fois, ils ont pas envie de l'apprendre ou des trucs comme ça, ou ils se rappellent plus, mais ouais, Astro, c'est tellement simple que. Ouais. Donc, ouais, c'est
Et
ça,
puis,
ça me faisait marrer,
et surtout, ça
quoi.
respecte les standards. Non, mais clairement, très
Ouais, c'est
bien.
ça, ouais. En tout cas, Bootstrap, non, mais alors, pour le débat, il n'y a pas de débat, mais Bootstrap, c'est quand même pas mal. Il a beaucoup évolué. Moi, j'ai rebossé dessus il n'y a pas longtemps parce que j'ai une agence qui bosse qu'avec ça. Voilà, c'est sans commentaire, sans jugement, on va dire. Mais au fil des années, c'est quand même vachement amélioré. Il n'y a plus de jQuery, tout ça, machin. Ça s'est beaucoup allégé. Hein, donc, voilà, et beaucoup de customisation. Il y a beaucoup aussi des utility classes, hein, comme Tailwind aussi, ils ont rajouté des utilitaires pour le flex, tout ça, etc. Donc il y a pas mal de trucs qui ont évolué, et il est mieux. Hein. Après, disons que ouais, s'il y en a un dans un projet, je veux pas. Enfin, ça va, aujourd'hui c'est cool.
Ok.
On n'est plus au Bootstrap 3 avec des trucs hyper lourds et tout.
Ça a su évoluer.
Ouais, il a su évoluer.
Carrément. Quelque chose qui a plutôt beaucoup, beaucoup évolué aussi, c'est Directus, qui est un CMS headless, mais pas que un CMS. On va avoir beaucoup d'autres fonctionnalités à côté, des possibilités de créer des dashboards, de faire de l'automatisation. Donc, il faut plus voir ça comme un dashboard. Mais il y a une fonctionnalité qui est sortie, où en fait on va pouvoir modifier ces données directement dans le contexte, et en fait on voit une sorte de rendu visuel en fait
De
de notre
preview, ouais.
site pour pouvoir en fait faire les modifications. Et là, si on clique sur l'édition, je vais pouvoir edit is fun. On va pouvoir faire les modifications et voir le visuellement
Ah, tu vois,
ah.
c'est planté.
C'est ballot.
J'ai fait des mots.
La démo qui pète. C'est pas comme si on avait vérifié ça tout à l'heure en plus. Mais dans le
Alors, ça a
mais euh, dans le mais, mais dans le contexte en fait, on peut valider et
Et
en
peut-être
fait on
déconnecter tout droit.
ouais, exactement. Je pense que la session a dû expirer. Mais en fait, on voit notre site internet qui est dans le rendu en fait de notre site internet est directement rendu dans Directus. Et par un simple clic, je veux modifier le titre, je clique sur le titre et je viens l'éditer. Alors pour nous, dev, ça amène pas grand-chose, on est complètement d'accord. Par contre, ce que moi je vois vraiment de majeur, c'est qu'on donne à l'équipe marketing la possibilité de faire les éditions dans le contexte du site. Et ça, en fait, c'est hyper, hyper valorisable parce que on arrive à la croisée des mondes entre un espèce de Webflow ou des sites que tout le monde utilise parce que visuellement, en fait, on voit le contenu et donc c'est beaucoup plus accessible pour les non-techniciens, les non-devs. Mais on garde la main sur la pureté du code et de bien structurer l'intégralité des données dans un CMS qui en plus structure les tables de manière très très propre. Et donc là, grosse fonctionnalité, super intéressante.
Ah, c'est super. Franchement, c'est top. Parce que ouais, comme tu le dis, l'équipe marketing et tout, ils sont là, ils votent comme des dingues. En fait, tu peux construire ta page, tu peux rajouter des blocs, tout ça, les modifier, les éditer. Parce que voilà, c'est le top pour des non-techs, même pour nous hein, des fois, quand on veut voir un truc, on veut voir ce qu'on fait, c'est génial. Et surtout, il l'a intégré. Alors c'est une super alternative à Webflow et compagnie, puisque justement, la force de ces outils-là, c'est de sur Webflow, il y a un côté édition où tu n'es que éditeur et justement tu vois exactement ce que tu fais, tout ça, c'est vachement bien fait. Alors, là, un outil qui est. Parce que Directus, c'est open source, là, je rappelle, on peut le self-hoster, tout ça. C'est ça, hein? On est
Oui,
d'accord.
bien sûr, on est complètement d'accord. Il y a une version open source que tu peux self-hoster et il y a une version cloud où tu n'as pas à gérer l'hébergement.
Alors je sais que la version open source, tout n'est pas dispo, il me semble. Peut-être ça a changé depuis, mais
Oui,
c'est ça, on est d'accord.
ouais, c'est ça.
Alors j'ai pas réussi à trouver si ça c'était dispo dans la version open source CLSP.
Ah.
J'ai cherché dans le texte et tout, j'ai pas vu une limitation. Alors peut-être que c'est dispo sans problème.
Après, il faut voir à partir de quelle version c'est disponible.
Là ça vient de sortir, hein, donc c'est pour
Ouais,
ça.
donc
Peut-être c'est dans
après, je
la
sais
dernière
que
version.
ouais, souvent aussi, la version cloud est plus en avance que sur la version open source.
Ouais, c'est
Et donc,
normal.
les premières fonctionnalités sont d'abord disponibles sur le cloud. Après, à voir. Mais à tester, c'est
Alors,
super classe.
juste un truc, voilà, revers de la médaille, c'est côté front, enfin côté code, tu dois bah, évidemment intégrer une librairie logique, mais que aussi côté markup, etc., tu dois intégrer en fait des attributs ou des props pour définir
Eh
certains
oui.
trucs, tout ça par rapport à l'éditeur. Donc, le revers de la médaille, c'est que ton code devient un peu plus lié à Directus. Donc, du coup, plus difficile de migrer à un moment donné si jamais tu l'intègres
Moi.
totalement.
Ouais, après, moi, ce que je vois, c'est que, tu vois, on a peut-être un mix intéressant à trouver entre ce que tu donnes accès, c'est-à-dire tu vas pas donner toutes les pages en accessible au marketing, mais peut-être les deux ou trois pages spécifiques sur lesquelles ils ont besoin d'avoir la main. Et le reste, en fait, tu le gardes en mode clean, facile à lire pour nous dev, mais tu donnes accès que à des pages spécifiques. Et en fait, tu viens pas pour, je veux pas dire pourrir parce que c'est pas le bon terme, mais tu viens pas dégrader ton expérience de lecture de code. Parce que bah, tu l'as fait que sur deux ou trois pages qui sont dites sensibles ou en tout cas avec des
Ouais,
besoins
tu peux donner que
marketing,
la
tu vois.
home, des trucs comme ça, quoi.
Et ouais, donc
Ou
ça,
eux, ils vont
c'est quand
bouger
même
les
pas
blocs,
mal.
tout ça. En tout cas, Directus, c'est impressionnant comme ça a évolué depuis quelques années. Depuis le switch, en fait. Alors, pour rappel, Directus, à la base, c'était un CMS qui était PHP. Ils ont switché un jour,
Ils ont
je sais
tout
plus quelle
migré,
année.
je crois. Ouais, ça fait déjà
Ils ont tout
longtemps.
migré sur JS, Node.js et tout
Ouais,
ça. Ça fait peut-être en
Node.
2020 ou autre.
Je crois que c'est.
Et
Ils ont
depuis,
profité du Covid pour faire la grosse migration. Et c'est là où ils ont aussi explosé. Et ils ont fait un dashboard super clean. Vraiment top.
Les trucs d'automatisation là qu'ils ont sortis dernièrement, tout ça, c'est assez puissant. Alors, équivalent français, c'est Strapi. Alors, Strapi donne une conf dans pas longtemps, je crois, peut-être cette semaine ou la semaine prochaine, je sais plus.
Ah ouais.
Donc, à voir ce que Strapi va sortir. Ouais, c'est normalement là, je crois que c'est la semaine prochaine, le 12 ou un truc comme ça. Et bah, à voir s'ils vont sortir. Mais là, c'est ouais, grosse feature là qui vient de sortir sur Directus. Du coup, les challengers prennent un coup de vieux d'un coup.
Et en termes de challenger, grosse, grosse annonce aussi de toute la suite Figma qui ont fait justement leur conférence annuelle où ils ont lancé une batterie de solutions, dont une solution d'édition de site qui s'appelle Figma Site. Et là, en fait, ouais, là, ça commence. Ils rentrent dans le game, quoi. Ils rentrent dans le game. Après, on verra aussi la maturité du projet, et surtout du produit. Est-ce qu'aujourd'hui, ils sont prêts à faire du production ready? Est-ce qu'ils peuvent cliquer? Ils nous vendent un one button deploy, publish, tout ça, à voir. Toujours est-il que, il y a aussi un autre truc, je ne sais pas si tu as vu, je me rappelle plus du nom, mais c'est l'équivalent en fait de Bold, donc le chat, le chatbox pour créer ton applicatif. Ils ont sorti leur équivalent.
Je sais plus comment ça s'appelle. T'as les
Mais
je clique sur le lien. Ils ont sorti plusieurs outils. Il y a Draw, je crois.
oui,
Alors, j'arrive. Il y a
Draw.
Draw, il y a Grid, il y a Buzz, il y a Sit,
Et c'est
Make.
Make,
Donc c'est
et
peut-être
c'est ça.
Make, ouais,
Et c'est Make pour vraiment
qui compare à
créer.
Lovable ou à Bolt, ouais, c'est ça.
Ouais, exactement. Et donc intéressant, intéressant à voir comment ça va évoluer. Après, même si nous on utilise Figma, mais plus du côté dans le dev mode. Ah, pardon. Disclaimer, on n'a plus le droit d'utiliser dev mode, je crois, suite aux avocats.
Ah bon?
Mais t'as pas vu
Ah
ça?
non, j'ai pas entendu ça.
Ah,
Non,
ok. Alors,
je sais pas si c'est
blague pas drôle. En fait, il y a les avocats, il y a tout le système juridique en fait de chez Figma, en fait, qui ont fait une lettre ouverte en disant que le dev mode était copyrighté chez Figma, et donc on n'avait pas le droit d'utiliser le dev mode. Le mot dev mode, en fait, était ouais. Et donc
Non.
il y a eu tout un drama sur Twitter où ils se sont fait trasher dans tous les sens, en mode on n'a pas le droit d'utiliser le mot dev mode parce que c'est propriété de Figma. Et
Non, mais ils sont
donc
dingues. Mais c'est
non
quoi?
non
C'est
mais
Oracle ou quoi? C'est
c'était
quoi le délire?
n'importe quoi. C'est voilà, je sais pas si c'était pour faire du buzz ou si c'est il y avait
Ah
un
non, mais
objet
là,
derrière,
c'est. J'espère que
mais
c'était
c'est
pour faire du buzz parce que.
très très drôle.
Ouais.
En tout cas, donc ouais, le dev mode. Toujours est-il que nous, en fait, en tant que dev, on va peut-être moins utiliser toutes ces solutions-là. Par contre, les designers, c'est un outil qui est très 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 très
Ouais.
implémenté dans la communauté. Et donc, on récupère la plupart du temps des maquettes qui sont faites en Figma et on va les intégrer depuis Figma. Donc, peut-être ça va nous faciliter la vie. Tous ces outils-là vont nous permettre de faire l'intégration encore plus rapidement
Ouais.
et encore plus
Ouais.
saine.
C'est clair que Figma s'est imposé aujourd'hui. Enfin, moi, je reçois que des maquettes en Figma. C'est fini. Enfin, je reçois plus rien d'autre. Plus de X. Enfin, non, pas XD. Comment ça s'appelle?
XD, ouais, c'est XD avant.
XD, ouais. J'ai oublié
Ouais.
le nom. Plus de XD, plus de. L'autre, c'était quoi? Le premier sur. Avant Figma, il y avait un autre aussi qui était pas mal. J'ai oublié le nom. Ouais,
Sketch.
comme quoi, on oublie. Ouais, Sketch, voilà.
Sketch, ouais.
Et donc, ouais, c'est vrai que tout le monde envoie maintenant sur Figma. Par contre, attention, je trouve que la maîtrise de Figma, elle n'est pas encore totalement là. Je reçois pas toujours des maquettes qui sont. Tu sais, dans Figma, tu peux faire des maquettes responsives. Tu
Bah,
peux
tu
faire des
fais
choses qui
oui
sont.
oui oui tu oui
Que
tu
tu
peux
peux
tu... oui
dimensionner les éléments, se dimensionner. Bah, ça, c'est quasiment jamais présent. On a encore des. Enfin, moi, je reçois que des maquettes façon. Enfin, fixe, quoi. C'est statique. Il n'y a pas de.
tu veux dire il y a même pas de version mobile?
Ça, c'est quand j'ai de la chance.
Ok. Alors ça, pour le coup, les designers qui nous écoutent vont s'insurger, mais oui,
C'est pour
ça
ça que
fait mal.
quand je vois Figma site, je me dis c'est super, mais. Voilà, à voir comment ça va être utilisé parce que. Mais en tout cas, c'est top pour. Alors tout le monde l'a mis en concurrence directe avec. Alors j'ai vu l'annonce hier. Enfin hier, ça n'arrêtait pas d'en parler parce que c'est dans la nuit de mercredi à jeudi, je crois, les Figma Day. Et alors là, tout le monde a dit ah, c'est une bombe, ils ont tué tout le monde. Webflow, c'est fini, machin, bidule. Alors tout le monde l'a mis en face de Webflow. À voir hein, si c'est vraiment équivalent parce que Webflow est tellement avancé techniquement, tout ça, ils ont pris tellement d'avance, je suis pas sûr que ça les remplace de suite.
Ouais.
Mais pour l'instant, en tout cas, Figma Site, c'est gratuit. Enfin, gratuit. Si tu as une licence, voilà. Si tu as une licence Figma que tu utilises, pour l'instant, jusqu'à la fin 2025, tu peux déployer des sites. Il n'y a pas de coût supplémentaire, etc. Tu peux mettre des domaines et tout ça. Donc de suite, c'est sûr, pour les landing pages, tout ça, tu vas pouvoir déployer facilement des landing pages
Ouais,
gratuitement.
mais de toute façon, on connaît tous le délire. Au début, c'est gratuit, comme ça, il y a beaucoup
Ah oui. Ah
d'utilisateurs.
oui.
Après, ils ont commencé à faire du business et la migration est d'autant plus dure. Et puis après, on dit, bah, maintenant, c'est payant. Voilà. Et donc, bah, les
Ouais.
mecs,
Là, ils viennent
voilà,
d'augmenter. Là, on était à 15 balles, 16 balles, je crois, les abonnements Figma. Là, on est passé à 20 balles, là, il n'y a même pas un mois. Donc, tu vois, on a déjà eu une augmentation. Maintenant, je comprends pourquoi ils ont augmenté, vu tout ce qu'ils ont sorti et qui est inclus dedans. Mais bon. Peut-être que bientôt, ce sera 30, 40, un peu à la Photoshop, quoi.
Bah, de toute façon, Figma s'est fait racheter par Adobe, donc aucune surprise quant aux intentions de Adobe, c'est faire du business, c'est normal. Après, voilà, si l'outil nous fait gagner du temps, enfin voilà, on prend toujours le parallèle avec quelqu'un qui fait de la charpente ou de la menuiserie ou un plombier, il a des outils. Nous, dans le digital, on a des outils. Voilà, c'est exactement pareil, quoi. Donc, yes.
Non, mais c'est bien, c'est un bel outil. De toute façon, c'est un bon outil. Rien à dire.
Allez, autre outil BHVR. Est-ce que ça serait pas le Beaver, donc le Castor? Ok. Qu'est-ce que c'est? À quoi ça nous aide? Est-ce que c'est pas un nouveau framework dans la hype du JavaScript ou rien à voir?
Non, alors ça, en fait, c'est pas du tout un nouveau framework, c'est tout simplement un. Alors, j'ai essayé vite fait l'autre jour. En fait, quand tu lances la commande create BHVR, en fait, il va te créer un environnement de dev avec un côté le front, un côté le back. Donc, tu as de suite disponible une API back voilà, avec Ono. Et devant, en front, tu as du React avec du Vite, en fait, qui fonctionne super. Voilà, tu as front, back vraiment séparés. Et ensuite, tu peux déployer ça. Tu fais un build, il te build les deux en même temps. Ça. Enfin, en gros, ça te fait un environnement de dev avec Ono en back pour faire l'API. Et puis en front, React. Voilà, et tu as déjà un mini exemple déjà de près. Ça fonctionne super simplement. Enfin, voilà.
Ok, et donc en fait, c'est un peu une alternative à Next ou à.
Ah non, même pas, même pas.
Non, rien
C'est
à voir.
vraiment, non, ça te balance, non, c'est vraiment hyper simple. Ça te balance un environnement de dev en 2 secondes avec un front, un back. T'as aussi un truc partagé avec les types, tout ça. Mais voilà, tout est configuré. En fait, tu lances le dev, ça marche déjà. T'as déjà une API qui répond, t'as déjà un front qui fonctionne. Et après, voilà, tu rajoutes tout ce que tu as besoin et tu peux
Ok,
déployer ça.
c'est quoi
Oh, c'est un
pour faire des POC, tu penses? Pour faire
du
voilà, pour
POC
faire.
ou un projet rapidement ou voilà, si tu veux pas, en fait c'est une sorte de React Create App, mais tu vois, ça te fait le projet prêt voilà, à coder quoi. Voilà, t'es prêt à
Ok.
coder, t'as les outils qu'il faut, t'as tout fonctionne et voilà.
Ok. Ok. Et toi,
C'est hyper, en fait c'est hyper simple, mais ça marche super bien. Voilà.
Toi, tu valides, est-ce que tu vois l'usage tout de suite
Ouais, si t'as besoin de faire une API rapidement, très simple, qui répond quelques réponses, enfin, voilà, ou avec un
Ok.
front assez basique. Voilà, il y a plein d'usages, mais c'est vraiment, ouais, voilà. C'est un peu comme des frameworks un peu Nuxt, tout ça, mais beaucoup plus simpliste. C'est
Ça,
voilà, c'est
ouais,
juste le
beaucoup
basique
moins
avec les
chargé,
outils
avec
qui
beaucoup
existent.
moins de fonctionnalités, quoi.
Ouais, t'as juste, voilà, c'est utiliser les outils vite, les bons outils, en fait, du Bun, du Vite, du React, du Ono. Toi, t'es moins fan de Ono, mais.
Ouais.
Voilà,
Mais ouais, carrément. Mais ok, je comprends. Je comprends.
non mais c'est pratique pour voilà, tu veux démarrer un projet en 5 minutes, c'est voilà, bah t'as
Et
ça.
puis, ils ont
Une
eu une
minute, tu codes.
mascotte. C'est un castor, tout. C'est sympa, quoi.
Ouais, j'adore le castor.
Bah, voilà. Allez, un autre outil sympa aussi dans l'écosystème ShadCN slash UI. On a plein de composants, c'est super bien. On sait tous que les formulaires, c'est méga la merde. Et là, en fait, c'est un utilitaire qui va nous permettre de construire des formulaires assez rapidement. Et donc, en fait, on va faire du drag and drop et on aura directement notre formulaire qui va se construire au fur et à mesure. Ça c'est ouf parce que voilà, on sait que clairement les formulaires c'est pas le truc le plus funky
Plaisir.
à faire. Non, c'est super chiant. Et donc là en fait, on vient automatiquement créer, on va dire
Ouais.
visuellement avec du drag and drop et on clique sur notre bouton générer le code et
Et
bim, ça y est, c'est fait quoi.
voilà. Tu vois? Donc tu mets Beaver là avec ça et tu fais ton t'as déjà en bout de 10 minutes, tu as déjà une app avec un bac et un formulaire.
Et t'as même
Tu vois,
pas
tu peux l'utiliser.
utilisé l'IA. Et t'as même pas utilisé
Tu n'as même pas
l'IA.
utilisé, tu vas presque plus vite que l'IA avec ça. Donc t'imagines?
Non, pour le coup, vraiment sympa. Par contre,
Ouais.
c'est
Et tu peux miser
ChatZen.
sur la droite et tout.
Ouais, non, top, top. Vraiment top.
Je sais pas s'il y a la validation aussi, je pense que ça inclut la validation aussi, mais
Ah, je suis pas sûr, parce que ça c'est quand même propre à ton système à
c'est en
toi
dehors
quoi,
de
tu vois.
ChatZ.
Tu vois, si le texte il
Ouais.
doit correspondre à une certaine regex ou à un ton type spécifique que tu as rentré, pour le coup ça c'est quand même assez propre à ton métier. Mais petit utilitaire sympa pour générer des formulaires.
Ouais, tu gagnes un temps là, phénomène.
Ouais, carrément, carrément. Allez, on reste dans l'écosystème, on va dire UI, avec une nouvelle, allez, est-ce qu'on pourrait encore le dire, une
Encore une.
nouvelle librairie de composants qui s'appelle Starwind UI. Par contre, celle-ci, elle se veut en fait pour des projets astro.
Yes. Ouais, Astro uniquement, ouais. Ouais, c'est des librairies de composantes prêts à l'usage, donc tu peux copier le code pour uniquement Astro, donc c'est le markup Astro, et donc c'est ChatCN, Tailwind 4, voilà. Et t'as
Ok.
plein de trucs
Bon.
prêts à être utilisés.
Et pour le coup, on reprend un peu les mêmes
Moi, toujours pareil.
enfin, on retrouve les mêmes composants qu'on a partout, quoi. Les
Ouais.
boutons, les alertes, les avatars, les badges, les tabs, les choses comme ça, les inputs. Ouais, c'est quand même pas mal. Après, une fois de plus, le gros problème de toutes ces librairies, c'est qu'il y en a tellement. Il y en a tellement. Et les projets meurent, pop et meurent aussi vite. Ouais, les projets meurent aussi vite qu'ils apparaissent. Et donc, en fait, tout ce qui est vraiment difficile, bah, c'est de choisir ta librairie pour qu'elle soit maintenue dans le temps, pour aussi que toi, tu puisses faire des évolutions si tu as un projet un peu conséquent. Si c'est un projet one shot, ok, pourquoi pas. Mais moi, je t'avoue, avant de partir sur ça, là, ouais, je serais un petit peu plus méfiant maintenant parce que, enfin, je sais pas quel regard toi tu as sur
Ah oui, non, mais je suis
l'évolution de
totalement
toutes ces
d'accord.
librairies, quoi.
Bah après, ça dépend si c'est un projet qui va durer dans le temps. Si tu fais un projet qui est censé durer 4, 5, 6 ans, plus, tu vas faire gaffe à ce que tu vas choisir comme librairie parce que tu sais que demain, Starwind peut s'arrêter parce que le mec qui maintient, il passe à autre chose, quoi. Il a envie de faire autre chose, donc il laisse tomber ça. Par contre, si c'est un POC ou si c'est une landing page avec un formulaire ou des trucs comme ça, là, oui, tu te dis, bah, je m'en fous, ça va durer 2 mois, donc allez, go. Et puis voilà. En fait, ça dépend de la durée du projet. Voilà.
Ouais. Non, mais ça reste quand même classe, c'est top, hein. Aucun problème
Après, ils
là-dessus.
sont celui-là. Après, il faut voir enfin, le projet en lui-même, Starwind, ce qu'il implique, parce que finalement, c'est basé sur des outils ChatCN, tout ça, qui sont maintenus, par contre. Donc, si ça, c'est juste des components en plus par-dessus et qu'il n'y a quasiment rien de rajouté, bon, ça va, tu prends pas trop de risques, mais
Ouais, une sorte de
à voir.
surcouche, en fait. Ouais.
Après, ça n'empêche pas, parce que là, du coup, c'est open source, ça n'empêche pas de se mettre dans la communauté et de contribuer à Starwind UI pour qu'il continue aussi,
On est complètement
finalement.
d'accord, sauf que là, c'est plus du tout le
Voilà.
même délire, quoi. C'est plus du tout le même
Ah
job. Entre utilisation et créer, ouais, c'est plus le même délire. Entre maintenir ton application et maintenir la librairie de ton application, waouh,
oui.
c'est pas du tout le même délire. Allez, on
Ouais.
reste toujours
Encore
dans le délire du UI avec changement de décor. Là, c'est smooth UI. Et qu'est-ce que c'est exactement?
T'as vu, j'en ai mis trois d'affilée, comme ça, c'est fait.
Ouais.
Mais en fait, c'est des components encore qui sont avec des animations smooth, comme il dit, quoi. Donc, il y a plein de petits trucs, des compteurs, machin, tout ça. Si tu vas dans la, tu vas voir tous les components, tu vois, il y a plein de, voilà, des animations comme ça, de compteurs qui, c'est chouette,
Ok.
ça. Hein.
Ok,
Voilà.
donc en fait, c'est une librairie de composants avec une grosse partie d'animation intégrée
Ouais.
dans leur. Clairement, c'est pour plutôt des projets front avec des grosses problématiques. Enfin, pas des grosses problématiques, mais des. Pour le final user, on va dire pour des
Ouais.
sites internet ou des choses comme ça, parce que clairement, un professionnel, il s'en fout que ça bouge. Lui, il veut que son application, quand il clique, ça fasse, ça génère tout ce qu'il veut. Par contre, c'est vrai que pour l'utilisateur final, le client final, ou en tout cas pour du grand public, ça fait tout de suite son petit effet quand ça bouge. C'est des petits composants qui sont assez stylés quand même.
Ça fait aussi quand tu vends un projet et que ça bouge tout ça de suite, c'est les gens sont, enfin les clients sont de suite
C'est vrai.
impressionnés. C'est
C'est
des
vrai.
animations, ça bon, c'est ça
Ça
marche
fait le
bien en
taf.
général.
Non, non, mais
Ouais.
je suis complètement d'accord avec toi. Et le gros avantage de passer par ces librairies-là, c'est que tout est fait out of the box. Parce qu'on
Ouais.
sait très bien que les animations, quand on doit les gérer, on parlait de GSAP tout à l'heure, quand on doit les faire nous à la main, ça peut être hyper chronophage. Et ça peut vraiment, vraiment demander beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps pour faire un effet waouh. Et là, sur ces micro-animations qui sont ramenées à l'échelle du composant, ça amène beaucoup de valeur parce que nous, le composant, il est déjà fait, quoi. Donc, on l'intègre
Après,
hyper facilement dans notre projet.
ces trucs-là, c'est pas mal aussi des fois pour trouver des idées aussi. Si tu veux des idées d'animation ou à copier les idées, tu vois. En plus, t'as une partie du code qui est disponible, tout ça, donc tu peux t'inspirer et refaire à peu près les mêmes animations sans dépendre de la librairie, tu vois. Ça peut être pas mal aussi.
Ouais, non,
Et t'as vu
carrément.
le petit bouton en haut, Open in V0? J'ai pas cliqué sur
Open
au-dessus
in
là.
V0, ça te prend ton code et
Peut-être
ça te
ça.
le régénère, ou je sais pas comment ça marche. Je dois accepter les
Voilà.
termes. Oui,
Ah, ça veut dire
prenez.
qu'en fait, ah non, en fait, ça veut dire que il te l'ouvre là avec le code et tu peux faire du prompt pour changer des choses et l'améliorer en fait.
Ça, c'est
En
top.
gros, si je
Ouais,
comprends.
c'est
Ça, c'est
plutôt
pas
pas
mal.
mal. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est
Donc,
pas mal
l'adapter
du
à
tout.
ton projet, etc.
Le
Ok.
customiser avec
Ouais.
V0. Propre, 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 propre. Allez, quand on parle de customisation et de donner accès à nos clients finaux ou à l'utilisateur et de pouvoir modifier son texte, on est souvent obligé de mettre des petits textbox, ça c'est ou texte area, on connaît tous. Ça c'est le niveau le plus basique et le plus simple qu'on peut faire. Néanmoins, dès qu'on veut donner un petit peu plus de matière, on va lui donner un accès aux éditeurs un peu aux WYSIWYG, les what you see is what you get. Et là-dedans, en fait, on a des batteries de solutions qui ressemblent à des Notion-like ou à des choses un petit peu plus poussées. Et là, en fait, il y a TipTap qui vient en version 3, qui sort une bêta. Qu'est-ce que ça amène? Qu'est-ce que ça change en termes d'évolution?
Bonne question. Il est en version bêta de V3. Donc c'est TipTap, c'est un éditeur, ouais, comme tu dis, pour une admin, tout ça, pour éditer du texte, tout ça. C'est une alternative à CK Editor ou des choses comme ça qui sont payantes. Il y a beaucoup d'éditeurs avancés pour les admins, mais qui sont souvent payants. Faut pas l'oublier. Celui-là, il est open source et il est pas payant du coup. Et donc, il a beaucoup de fonctionnalités avancées et notamment des exports dans certains formats, etc. Donc, après, sur les nouveautés, je sais pas trop, mais voilà, tu vois, tu as les conversions de formats dans différents formats, voilà, DocX, Markdown, JSON, etc. Donc, voilà, c'est un éditeur qui est super avancé quand
Ouais, et pour le coup, de pouvoir utiliser à la fois du DocX, du ODT, du RTF, du Markdown ou du document, eux, ils ont leur propre manière de faire avec un énorme JSON. plus facile à stocker aussi pour nous, dit en passant. Ça va tout convertir et le rendu sera optimum avec plein de petits composants. Souvent, il y a des extensions, des plugins pour venir en fait étendre cet éditeur. C'est plutôt sympa. Par contre, la version 2, en fait, on arrive très vite sur des versions un peu payantes. Ouais, il y a une version gratuite, par contre, qui va être limitée sur les fonctionnalités, mais qui répond quand même à beaucoup, beaucoup de cas. Mais clairement, on va pouvoir étendre en fait cet utilitaire. Pour faire des choses plutôt sympas. Et donc, la version bêta 3 va en fait venir améliorer tout ça. Cool. Le core devient totalement open source. Donc ça, c'est plutôt sympa. Nice. Autre chose qui est super sympa. Alors, peut-être que vous êtes pour ou contre les emojis partout. On va pas lancer le débat ici. Par contre, si vous voulez intégrer en fait votre propre système d'emojis à l'intérieur de votre application sans utiliser les versions natives en fait de votre operating system, donc que vous soyez sur téléphone ou sur ordinateur, vous avez accès à ces emojis de manière native. Néanmoins, si vous voulez les mettre dans le contexte de votre application, vous pouvez le faire avec une super librairie qui s'appelle Freemousse.
Tu vois, moi j'avais marqué le truc qui sert à rien mais qui est cool. Donc c'est vraiment, je vois pas à quel moment tu vas pouvoir intégrer ça. Mais en tout cas, c'est super sympa, l'éditeur.
Oui, alors moi ce que je vois, tu vois, quand je vois ça, par exemple, ça me rappelle clairement sur Discord, par exemple, où tu peux mettre, où tu peux rajouter en fait des emojis custom, et donc tu viens en fait rentrer tes propres emojis et tout se fait au sein de ton application. T'as pas besoin de sortir de ton contexte et d'utiliser ton keyboard de ton operating system pour le faire. Donc ouais, je comprends un peu quand même. Si tu vois, si je comprends, je comprends. Si
Ouais, peut-être si. Alors, je me dis là, peut-être dans une zone de commentaires où sur un site ou quoi, ou une app, tu as des commentaires, tu peux éventuellement mettre un truc pour mettre des emojis dans les commentaires. Mais comme tu dis,
ouais.
ouais, c'est déjà disponible dans tous les OS, tout ça, donc voilà.
Mais si tu veux faire, si tu veux mettre tes propres emojis et ton propre écosystème
Oui.
d'icônes et tout ça, et ben là, tu es obligé de venir intégrer cette fonctionnalité. Et donc, je comprends. Après, quand on est à ce niveau-là de détail dans ton application, c'est plutôt pas mal. Est-ce que ça va être le game changer? Je sais pas. Mais en tout cas, c'est possible d'intégrer de manière native au sein de notre application la gestion des emojis avec Freemousse. Malgré le fait que la librairie soit faite en anglais, voilà, ça a une vocation internationale. Freemousse, c'est quand même un super nom français, tout, et moi, je trouve ça sympa.
Ouais. Et t'as vu, c'est encore basé sur ChatCN UI, donc on voit
Et
que.
oui. Non, mais c'est devenu un standard. Hein. C'est devenu un standard.
Ouais, c'est devenu
Ce
standard, ça s'impose. Ouais.
chat CN. Allez, on bascule dans le monde du dev IA. Pour nous, une info qui peut avoir son impact. Windsurf, donc, qui est l'IDE qui utilisait justement tous ces agents et ces modèles IA pour nous faciliter la vie, vient de se faire racheter par OpenIA pour la modique somme de 3 milliards.
Ouais, enfin, c'est en cours, hein, c'est en cours et c'est en train de dealer. Je sais pas si c'est totalement fermé, fini, mais
C'est annoncé à 3
moi, quand j'ai
milliards
lu
en tout cas.
ça, ouais, moi j'ai tombé de ma chaise, que j'ai pas parce que j'ai un bureau debout, mais j'hallucine en fait sur le montant, en fait. Mais clairement, j'ai du mal à comprendre. Alors, toi, tu as peut-être des explications, mais je comprends pas comment un fork de VS Code. On a rajouté une brique IA, donc en prenant plein d'ingénieurs, tu peux faire, on est d'accord, hein. tu peux être valorisé et être racheté à 3 milliards. Je ne comprends pas pourquoi OpenAI ne fait pas une branche de VS Code et développe pas lui-même son Windsurf, en fait. Mais
Après, là, je pense
voilà.
que c'est pas des logiques techniques qu'ils achètent. C'est, je pense plutôt qu'ils achètent un concurrent pour éviter, pour tout internaliser et pour augmenter la valo d'OpenIA. En fait, Windsurf a réussi à onboarder beaucoup, beaucoup de développeurs. Et donc ça, en fait,
Ouais.
c'est valorisable parce qu'on le sait tous, une fois qu'on a fait notre migration sur un IDE, on ne change pas tous les 4 matins. Donc ce qui veut dire que quelqu'un qui met sa carte bleue pour Windsurf, il va rester, je pense, 6 mois, un an,
Ouais.
voire plus. Donc,
Bah, je
toi...
suis. Alors, je suis pas totalement d'accord parce que justement,
Ok.
le fait qu'il soit basé sur VS Code, c'est facile de migrer justement. Tu peux passer de Windsurf à Cursor à VS Code, repasser sur VS Code par exemple. Donc
Ouais.
c'est plutôt facile de migrer aujourd'hui.
Ouais, ok,
Mais.
c'est vrai. Par contre, moi, enfin, je pense que justement, peut-être OpenIA n'a pas cette brique IDE plus code. Et donc, en fait,
Ouais.
bah, c'est plus facile de faire une acquisition, peut-être survalorisée, mais ils s'en foutent, ils sont blindés, donc ça rentre
Mais c'est
dans les assets. Donc, en fait.
la plus grosse acquisition là depuis que OpenAI existe en fait. C'est
Oui.
un éditeur de code quoi. C'est fou.
Mais comme ça, ils viennent internaliser et ils font un outil tout en un et ils maîtrisent toutes les briques. C'est-à-dire, on a l'IDE, on a les agents et on a les modèles et on entraîne les modèles. Bah, en fait, ils ont toute la ligne de production et donc ils deviennent ce qu'on appelle un pure player. Moi, ça me surprend pas. Je suis pas surpris de ça, quoi.
Non, moi alors rappelle-toi Instagram, combien Facebook l'a acheté? Rappelle-toi.
Bah oui.
Instagram, on parle d'Instagram, hein.
Bah ouais.
3 milliards.
Bah ouais.
Non, mais c'est Instagram, t'as vu ce que c'est devenu aujourd'hui. Je veux dire, Windsurf ne deviendra jamais Instagram et rapportera jamais autant d'argent qu'Instagram.
Who knows?
Donc.
Who knows? Who knows? Bah, tu peux pas savoir. Non, mais tu vois,
Après, je
tu.
sais, j'imagine qu'ils savent ce qu'ils font, hein. Ils sont pas fous, hein, mais c'est 3 milliards, quoi.
Ouais.
C'est juste fou.
Et en fait, en face, et on peut en parler maintenant, en face, on a Cursor. Et Cursor, c'est le concurrent, et c'est le même délire, c'est un fork de VS Code. Ok, très bien.
Mais qui était avant et qui est normalement plus utilisé que Windsurf. C'est ça, en
Oui.
fait, qui me rend fou, en fait.
Oui, mais qui te dit que OpenAI n'est pas allé voir Cursor en disant on vous rachète
Ils ont peut-être
tout?
dit non.
Et puis eux, ils ont dit non, 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 no way,
3
non, non,
milliards.
on se fait pas racheter. On se fait pas racheter. Et bah, Windsurf, ils ont réussi à trouver un deal. Donc, tu vois, c'est pas
Ouais,
déconnant. Donc, il y a une guerre là-dedans. Bon, bah, très bien. Et nous, on va voir si ça va être bénéfique pour nous, les utilisateurs finaux. Par contre, ce qui est sûr, c'est que Cursor vient avec un plan sur le futur. Pour en fait intégrer les étudiants et on leur donne un plan pro, donc un plan payant pendant un an gratuitement. Pour le coup, mes étudiants l'ont fait en 10 minutes, donc ça marche plutôt bien. C'est tout validé ultra ultra rapidement et ils peuvent profiter de
Ils
Cursor
valident
Pro
très
pendant un an.
rapidement.
Ouais, ouais, ouais.
T'envoies
C'est
ton
Hyper
diatique, là,
facile.
c'est.
Ouais, exactement. En fait, en tant
D'accord.
qu'étudiant, tu es rattaché à un numéro spécifique et eux, Cursor, en fait, ils ont déjà intégré toutes les écoles. Et donc,
D'accord. Ah, ils ont bien
ça
fait les
passe.
choses.
Ouais. Et en fait, aujourd'hui, tu as un standard dans les universités, tout ça, c'est en mode édu. En fait, dans ton nom de domaine, tu as édu et pour avoir ça, en fait, bah, ça veut dire que tu fais partie d'une école, d'une université et tout. Donc, en fait, ils se basent déjà là-dessus. Et après, en fait, tu dois transmettre ton numéro spécifique
D'accord.
et ça passe tout de suite. Donc, c'est super intéressant. Même si ça amène d'autres problèmes.
Ah oui, parlons-en. Petit débat.
Petit
Non,
débat,
mais d'accord,
mais.
de toute façon, il n'y a pas de débat parce qu'on est d'accord.
Exactement. Non, je pense qu'il n'y a pas de débat. Et je pense que quand on est junior, une fois de plus, Cursor, Windsurf, Copilot, tout ça ne sont que des outils. Et donc, est-ce que la messe est dite une fois que Cursor nous a fait sa suggestion? Oui et non. Je pense qu'il faut garder un esprit critique. Sauf que pour garder un esprit critique, il faut quand même savoir ce que Cursor a fait. Que la ligne de code qui nous a été soumise et suggérée, en fait, avant de faire tab, au minimum la lire et la comprendre. Et c'est là où, en fait, un junior, en fait, va avoir plus de difficultés à émettre des réserves quant à ce que Cursor va lui proposer. Parce que clairement, s'il n'a pas le recul ou le bagage technique, cognitif et de compétences nécessaires pour dire si c'est oui, non, si c'est bien ou pas, clairement, ça va être compliqué, quoi. Et le risque, c'est de venir jouer à tab, 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 mais de rien comprendre ce qu'on fait, quoi.
C'est clair. Bah, de toute façon, tu peux en parler puisque toi, tu donnes des cours à des étudiants. Donc, on n'est même pas sur des juniors, on est sur des étudiants. Donc, ils sont même pas encore considérés comme juniors. Ils sont à l'école. Donc, tu vois déjà des mauvaises
Des mauvaises
habitudes qui
pratiques,
s'instaurent.
bien sûr, bien
Ouais.
sûr. Et au-delà de lutter contre le copier-coller d'un projet à l'autre, ou de copier de Stack Overflow dans le projet, mais ouais, ça marche pas. Bah ouais, mais ta variable, c'est pas la même, mec. Tu vois, c'est des choses basiques. Là, en fait, on a le nouveau problème qui est l'IA. À côté de ça, aussi, j'ai vu des choses super intéressantes, c'est-à-dire d'utiliser vraiment Cursor et plus la fonction chat, en fait, pas la fonction agent qui va venir écrire du code pour toi, mais la fonction vraiment chat, où en fait, on pose des questions, on lui donne le contexte de notre page, et en fait, il va nous assister, il va nous répondre, il va nous donner la doc, il va nous donner des exemples. Et en fait, la qualité de ton prompt, évidemment, va donner vraiment matière à. Mais en tout cas, ça, en fait, on peut voir tous ces assistants de code comme des super teachers, quoi. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut le voir. Et ça ouvre beaucoup, beaucoup, beaucoup de possibilités sur l'apprentissage. Parce que un junior, si il a compris comment on pose les bonnes questions au chat, là, ça ouvre beaucoup, beaucoup de possibilités.
Ouais, c'est clair. Non, mais de toute façon, c'est clair. Il vaut mieux l'utiliser comme un assistant, comme du pair programming, en fait. Imaginons que t'es avec un développeur, comme si tu codais avec un développeur senior qui va t'expliquer les choses, mais pas, voilà, pas plutôt un truc qui va te remplacer et te faire gagner du temps et toi, tu vas être sur TikTok pendant que ça code à ta place, quoi, tu vois.
Ouais,
Plutôt un
là.
assistant qui va t'aider à comprendre et t'expliquer la doc, etc., plutôt. Ouais. C'est
Et
clair.
exactement, c'est en fait, pose-lui des questions, pose-lui des questions et lui, il va t'expliquer et dis-lui pourquoi, donne-moi des exemples, tout. Et donc, ça peut vraiment être super, super intéressant. Ce qui nous amène à la news suivante et au point suivant, justement, où il nous faut aujourd'hui, en fait, comprendre qu'est-ce qu'est le prompt engineering, mais de comprendre en fait et de savoir bien poser la question. Si hier en fait il nous fallait savoir poser la question à Google, aujourd'hui Google reste toujours une base, on est d'accord. Par contre, poser la bonne question et de poser une bonne requête au LLM en fait va devenir complètement indispensable.
Ouais, livre blanc qui est sorti là je crois que c'est quelqu'un qui bosse chez Google, hein, Lee Bunstra. Et donc totalement free, tu peux le télécharger, l'imprimer. Moi je l'ai imprimé, alors faites pas ça forcément, mais voilà, hyper intéressant. C'est pour apprendre à faire des prompts corrects et tout ce qui va autour, en fait, tout le langage, les paramètres, Topka, etc., la température, enfin tous ces réglages qui peuvent influer sur les réponses. Donc voilà, livre blanc de 60 pa 68 pages, ouais.
Ouais, ça se lit vite, ça se lit vite.
Oui, non, mais c'est hyper intéressant, en fait. C'est même quasiment obligatoire de le lire, je pense, pour
OK.
comprendre beaucoup de choses et devenir un peu plus expert dans le prompting, etc. Puis même, si jamais tu dois faire des agents ou des choses comme ça, de comprendre les réglages. Rien que la température, déjà, ça change complètement les réponses.
Mais
Par exemple.
bien sûr, en fait, c'est on a plein de. Moi, je prends toujours l'analogie de la table de mixage. Au départ, quand on commence à gérer du son, on a deux, trois potards, comme ils disent, des boutons, deux, trois boutons pour bouger les fondamentaux. Par contre, plus on avance en compétences et en gestion et en compréhension de la gestion du son, plus notre table de mixage, elle va devenir hyper grande. Par contre, elle s'accompagne aussi avec la compréhension de quand je bouge ce bouton-là, qu'est-ce que ça va faire? Et ce type de livre blanc, en fait, vient vraiment nous expliquer, nous donne une définition et nous donne des compétences pour pouvoir, en fait, utiliser et construire des prompts de qualité pour justement nous faciliter la vie. Top, top, super bouquin. Super bouquin, top. Et autre dans la continuité logique, si on a envie de construire des agents, donc des agents qui vont générer du code pour nous, ou autre chose d'ailleurs, de la même manière, livre blanc qui vient nous expliquer en fait comment, qu'est-ce qu'un agent, comment l'utiliser et comment construire un agent. Avec toutes les règles correctes. Top.
Oh, c'est OpenAI là, avec des exemples de code, tout ça, il y a pas mal de trucs.
Et celui-là, tu l'as imprimé aussi ou pas?
Non, celui-là pas encore. Non, mais parfois
Ouais.
j'aime bien imprimer, c'est plus facile à lire que sur l'ordi ou des trucs comme ça.
Ouais.
Et bon.
Après, si tu as une tablette type
Ouais.
Kindle ou en tout cas des tablettes qui sont basées sur l'encre, et donc en fait, il n'y a pas ce rétroéclairage, c'est vachement facilitant pour les yeux, ça fait beaucoup moins mal aux yeux, et donc c'est quand même super, super agréable. Yes, écoute Patrick, je te propose qu'on en reste là pour cet épisode de news du mois de mai. Et on remercie tout le monde qui est resté jusqu'au bout de l'épisode. Pensez à mettre le petit pouce, le petit commentaire. Ça nous fait toujours extrêmement plaisir. Si vous avez des questions, posez les questions dans les commentaires. Et on vous dit à bientôt pour d'autres épisodes. Ciao, ciao!
Merci, ciao.